Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce mercredi soir, Soir Info qui démarre comme chaque soir et qui vous accompagne sans aucune interruption jusqu'à minuit. Tatiana Renard-Barzac est avec nous ce soir, journaliste politique, bonsoir. Chère Tatiana, merci d'être présente. Arthur de Vatrigan nous rejoint. C'est une première dans Soir Info cette année.
Oui, je crois bien.
Ça fait bien plaisir de vous avoir, cher ami. Merci beaucoup. On a presque la même cravate en plus. La vôtre est mieux. Philippe Guibert, on n'a pas la même cravate, on a la même passion. L'actualité, le commentaire, ancien directeur du service d'information du gouvernement. Et ben vous m'enverrez une photo de votre garde-robe et on fera ça ensemble. Karima Abrik pour la rédaction de CNews. Bonsoir, cher Karima. Merci
pas
d'être. Non, mais vous avez remarqué que je n'ai pas fait de réflexion pour m'épargner justement. Non, pas du tout. Vous êtes parfaite, vous le savez. Jean-Sébastien Ferjou est quelque part dans Paris et il nous rejoindra dès que ce sera possible. D'ici là, nous allons entamer notre premier grand thème d'actualité et ce tollé dont on a commencé à parler hier, qui a une suite aujourd'hui, puisqu'après l'occupation hier d'un amphithéâtre de Sciences Po Paris par des étudiants pro-palestiniens qui ont notamment empêché une membre de l'Union des étudiants juifs de France d'y accéder, le Premier ministre Gabriel Attal, après une réaction du Président de la République qu'on évoquera dans un instant, il s'est rendu sur place cet après-midi et a annoncé que le gouvernement allait donc saisir la justice. Plus d'explications avec Florian Tardif du service politique.
Oui, Gabriel Attal s'est rendu en fin de journée à Sciences Po, accompagné de la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau. Il a annoncé que le gouvernement avait saisi le procureur de la République pour déterminer précisément ce qui s'était passé. C'est ce qu'il a dit face aux administrateurs présents. Hier, une centaine d'étudiants ont occupé l'amphithéâtre principal de l'école et selon l'Union des étudiants juifs de France, une étudiante aurait été empêchée d'entrer. Ne la laissez pas entrer, c'est une sioniste, aurait-elle entendu. Je réaffirme notre détermination, a dit le Premier ministre, à ce que des sanctions extrêmement fermes soient prise. Un administrateur provisoire sera nommé prochainement, a-t-il annoncé, à la suite de la démission de Matthias Wichra. La feuille de route de son successeur provisoire, a-t-il poursuivi, sera de faire respecter, je le cite, partout les principes républicains, les respects des valeurs de la République et de la liberté d'expression seront même dans le contrat d'objectif de la future direction, a précisé l'entourage de Gabriel Attal.
Et avant d'en discuter, je vous rappelle qu'un peu plus tôt, donc le président de la République, Emmanuel Macron, a lui dénoncé lors du Conseil des ministres ce matin des propos, je cite, inqualifiables et parfaitement intolérables rapportés de cette mobilisation. L'UEJF, je le précise de nouveau, a affirmé que des jeunes appartenant à l'association ont été pris à partie comme juifs et sionistes. Écoutez, Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, qui rapportait les propos présidentiels.
Hier ont été rapportés, lors d'une conférence à Sciences Po, des propos que le président de la République a tenu à rappeler tels qu'ils étaient inqualifiables et parfaitement intolérables. Il a rappelé avec clarté et fermeté sa position. Oui, les établissements universitaires sont autonomes, mais cette autonomie ne justifie en aucun cas le moindre début de séparatisme.
Un mot d'abord sur ce déplacement de Gabriel Attal. Arthur de Vatrigan, pour commencer, si vous le voulez bien. Acte symbolique fort que ce déplacement, il est venu taper du poing sur la table, le Premier ministre. On verra d'ailleurs ce qu'il a dit dans un communiqué dans quelques instants.
Le problème, c'est que le président dit que ce n'est pas qualifiable, alors qu'a priori, ça l'est. Si on est dans une accuse antisémite, c'est antisémite, voilà, point. Je sais que Emmanuel Macron a toujours du mal à nommer des choses quand ça peut créer de la polémique. Là, il ne les nomme pas, c'est embêtant. Alors, sur Sciences Po, ce n'est quand même pas la première fois. Donc, si on regarde depuis une dizaine d'années, Sciences Po s'est plus remarqué par ses esclandres et ses scandales que par ses talents. 2016, le hijab day. 2019, Alain Finkielkraut qui doit faire une conférence sous protection policière. 2020, Geoffroy Lejeune qui s'est annulé, oui. Censuré. Ensuite, il y a Paris, mais il y a aussi le reste. Bordeaux, Bardella, pareil, doit annuler sa conférence. Strasbourg, je rappelle qu'en mars 2022, la nouvelle promotion devait être appelée Samuel Paty, elle n'a pas été. L'excuse, c'est officiellement, vous voulez prendre le nom d'une femme, on aurait pu le décaler d'un an. On a 2021 à Sciences Po, Grenoble,
des profs qui sont affichés parce qu'islamophobes et ça va jusqu'à les menacer jusqu'à chez eux. On a en juin 2021 Sciences Po TV qui diffuse tranquillement, je cite, « La France est une nation où la majorité de la population est blanche, où les institutions juridiques ont activement créé, perpétué les hiérarchies et oppressions raciales ». Donc si vous voulez...
Vous pouvez voir tout ça venir, c'est ce que vous êtes en train
de... Voilà, dire que la wokisation, l'extrême gauchisation de Sciences Po, c'est pas nouveau. Si vous voulez, en plus des chiffres, vous avez le Cevipof qui sort une étude en 2022, juste après les élections, 71% des étudiants se déclarent de gauche, c'est pas une nouveauté, sauf que 58% annoncent avoir voté Jean-Luc Mélenchon. Bon, on sait que l'extrême gauche a pris est devenue le centre de la gauche, mais forcément derrière, bah vous avez toutes les conséquences. Et le problème, c'est que vous avez cette nouvelle élite qui va être la future élite de la France, qui est complètement wokisée, islamo-gauchisée, extrême-gauchisée.
C'est peut-être pour ça que l'État doit intervenir. On va répondre à cette question. Je voudrais juste que vous voyez ce qu'a dit donc Gabriel Attal lors de cette visite à Sciences Po. Le gouvernement va aujourd'hui faire un article 40. L'article 40, c'est la saisine du procureur de la République pour contribuer à l'enquête et contribuer aussi à la mobilisation des services pour déterminer ce qui s'est passé hier. Je réaffirme notre détermination à ce que des sanctions extrêmement fermes soient prises. La deuxième chose, c'est qu'un administrateur provisoire va être nommé très prochainement par le gouvernement. Et je le dis très clairement, il y aura au cœur de sa feuille de route celle de déterminer et d'identifier les conditions pour inverser cette pente et pour faire respecter toujours et partout nos principes républicains. Enfin, quand on entend parler de Sciences Po aujourd'hui, c'est pour des polémiques. Sciences Po qui n'a pas eu d'autre choix après une défense assez moyenne hier que de tweeter dans le sens de l'exécutif, puisqu'il y a quelques heures, regardez ce que tweetait la grande école parisienne qui va dans le sens donc du gouvernement et qui reprend d'ailleurs les phrases du Premier ministre. Sciences Po saisit le procureur de la République pour des faits à caractère antisémite, sur la base de l'article 40, code de procédure pénale. Il y a urgence à intervenir à Sciences Po et au sein de ces universités, de ces écoles élitistes françaises, d'une manière générale. Tatiana Renard-Barzac.
Surtout avec clarté, en fait.
Avec
clarté, oui. Parce que quand je vois les propos de Gabriel Attal qui dit... Dans les trois choses justement qui va être en œuvre, le respect des valeurs républicaines et la liberté d'expression doivent être incluses dans le contrat d'objectifs de la future direction. On s'étonne quand même que ça n'ait jamais été le cas. Ça, c'est la première chose. Accessoirement, il n'y a pas à l'heure actuelle de direction. Donc c'est aussi un deuxième petit souci, puisque je rappelle que Mathias Vichéra a donné sa démission.
Alors le directeur de Sciences Po qui a démissionné pour une toute autre raison, des histoires conjugales.
Il doit passer dans la justice.
Exactement.
Avec son ex-compagne. Cela dit, ça pose quand même un petit souci à l'heure actuelle. Troisième chose, si on élargit le spectre, c'est vrai qu'il y a un problème aujourd'hui dans le milieu universitaire et scolaire. 12,7% des actes antisémites ont lieu en milieu scolaire, plus 1200% depuis le 7 octobre. C'est absolument colossal. Ça se passe en France. Je vous citerai par exemple deux exemples, puisque je vais suivre mon voisin tout à l'heure. Pas pour Sciences Po, pour l'ERG de Spectre. Le HESS, donc,
l'École de hautes études en sciences sociales.
En sciences sociales, où un communiqué diffusé par la section du syndicat solidaire étudiant appelait au soutien indéfectible à la lutte du peuple palestinien, y compris la lutte armée. Deuxième exemple, à Sas, où un maître de conférence en droit constitutionnel a été suspendu. Pourquoi ? Parce qu'il a dit à ses élèves que s'ils arrivent en retard, ils le feraient comme à la rêve. Référence à la rêve partie où il y a eu le massacre du 7 octobre, et qu'il fallait des requêtes pour les réveiller. Bon. Donc oui,
non, je t'ai plus.
Si vous voulez, cet antisémitisme malheureusement est rampant dans le milieu universitaire français, mais pas que. Regardez ce qui s'est passé sur les campus américains.
Non mais
regardez,
c'est justement, en fait c'est l'inverse, c'est une américanisation.
Ubuesque des présidentes des plus grandes universités américaines, notamment Harvard, quand on leur demandait de répondre par oui ou pas, est-ce que ce sont les actes antisémites, est-ce que c'est condamnable et qu'ils étaient incapables. Oui, peut-être, ça dépend des circonstances.
Ça dépend du contexte.
Donc il y a évidemment un énorme problème. Et dernier point. On dit parfois, souvent d'ailleurs on entend en fait l'antisémitisme, son creuset c'est l'ignorance. Bon bah Sciences Po est le contre-exemple absolu, ça montre qu'en fait, même dans des... En fait l'antisémitisme malheureusement...
Et c'est ça qui est plus grave en fait.
Dans parce toutes que... les classes sociales, voilà, qu'on soit CSP- ou CSP++, et malheureusement il y a donc une problématique d'éducation et une vraie question à se poser sur la façon dont on enseigne les cours. Parce que je rappelle que cela intervient dans un contexte tout à fait explosif, qui est qu'on a quand même des profs qui s'autocensurent et qui ne veulent plus faire de cours sur la Shoah et sur le conflit israélo-palestinien.
Mais c'est vrai que ce qui nous intéresse particulièrement avec Sciences Po, ce qui nous intéresse particulièrement avec Sciences Po, c'est qu'on est dans une, on vous parliez d'ignorants et de différents contextes dans lesquels cet antisémitisme peut se manifester. Ce qui nous interpelle avec le cas de Sciences Po et ce à quoi les étudiants de l'UEJF ont assisté hier, c'est qu'on est vraiment, comme vous le rappeliez, dans une des écoles les plus prestigieuses de notre pays, qui forment les élites de demain, où les élèves qui y sont sont a priori loin d'être ignorants, puisqu'ils sont sélectionnés également pour des parcours souvent assez exemplaires. Écoutez Samuel Lejoyeux, le président de l'UEJF, qui rappelle que c'est peut-être une minorité, mais c'est une minorité active, influente, et que les Juifs sont clairement pointés du doigt.
Les Juifs, assignés à une certaine position politique, sont pointés du doigt. Ça reste une minorité, mais ça fait extrêmement de mal au quotidien aux étudiants juifs qui, oui, à Sciences Po, pas qu'à Sciences Po encore une fois, mais en l'occurrence à Sciences Po, sont pointés du doigt au quotidien. On a des gens qui se déplacent de leur chaise quand ils sont pour pas être à côté d'un étudiant juif. On a des
À Sciences Po,
tout à fait. On me dit qu'il y a des gens qui n'ont personne pour faire leur exposé à Sciences Po, parce que non, on va pas se mettre avec le sioniste pour faire son exposé. C'est ça la réalité aujourd'hui à Sciences Po.
Je me permets de saluer Jean-Sébastien Ferjou qui vient de nous rejoindre. Jean-Sébastien, évidemment, vous donnerez votre avis dans un instant. Philippe, peut-être dans un premier temps, on vient d'entendre Samuel Lejoyeux, donc président de l'UEJF. Il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de débat, c'est invivable. C'est une lente dérive que celle de cette, encore une fois, très prestigieuse école parisienne.
Oui, mais Sciences Po a toujours été perméable à l'idéologie dominante dans l'univers des sciences sociales et des le Sciences Po que j'ai connu fin des années 80 était très libéral.
Parce que l'idéologie de l'extrême gauche et notamment celle de LFI depuis le 7 octobre, c'est l'idéologie dominante.
C'est pas l'idéologie des LFI. Les LFI ont emprunté une idéologie qui vient qui vient des États-Unis. Et je pense donc Sciences Po a toujours été perméable. Avec des variations assez importantes. À mon époque, c'était entre Rocard et Raymond Barre. Hein. Et donc,
c'était pas hyper libéral.
Non.
Moi, ouais, si, par rapport à l'époque. Mais j'ai perdu mon fil. Ce qui a changé à Sciences Po, c'est l'américanisation de Sciences Po. C'est la mondialisation, l'américanisation de Sciences Po. Et donc, Sciences Po est en train d'être atteint, et depuis un certain nombre d'années, effectivement, par des stigmates et par des tendances qu'on a beaucoup entendues sur les campus américains. Voilà, c'est ça la réalité. Sciences Po est rattrapée.
C'est pas la France de Vichy, là. Hein. C'est la France de 2024, Philippe Guibert. C'est pas la France de Vichy.
On est bien d'accord, mais c'est-à-dire vous.
C'est-à-dire que dans une incitation, comme je disais, qu'on arrive en 2024 avec une étudiante non admise en raison de son judaïsme, que ce soit décrit comme une idéologie dominante.
Non, mais bien sûr. Mais
c'est une forme de régression absolue.
Elle est aujourd'hui dominante dans l'univers des sciences sociales. Oui. Dominante, ça veut pas dire que tout le monde la partage. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que la mode idéologique au sein des étudiants qui sont en sciences humaines, en sciences politiques, aujourd'hui, c'est plutôt celle-ci, certainement avec des degrés, des variations des degrés. Donc Sciences Po est touchée par ça. Voilà.
Et il est urgent d'agir.
Deuxième remarque, c'est qu'il y a une direction, Tatiana l'a déjà dit, on a une direction qui était particulièrement affaiblie ces derniers mois et donc qui n'est pas en capacité de prendre des actes d'autorité qui seraient nécessaires. Et donc le gouvernement, c'est à juste titre, à mon avis, engouffré quand même. Mais
est-ce que cette direction ne cautionnait pas tout simplement aussi cette idéologie ?
Non, je crois que c'était où ? C'était plus de l'autocensure, c'était plus du pas de vague,
oui, voilà.
Avec une tolérance pour l'idéologie dominante, voilà, dont tous les profs, dans lesquels tous les profs ne se reconnaissent pas. Il y a eu une très belle tribune aujourd'hui sur le site de la règle du jeu d'un prof de Sciences Po, François Lebrun, qui disait parfaitement les choses et qui enseigne l'histoire juive à Sciences Po. Donc, c'est idéologie dominante, ça veut dire une mode dominante, ça veut pas dire que tous les profs et tous les étudiants sont sur cette ligne-là, ça veut dire simplement que c'est autour de ça que se fait le débat, c'est là que sont les plus radicaux, les plus agités, et ça veut dire aussi que ce sont des minorités, puisque d'après ce qu'on m'a dit à l'intérieur de Sciences Po par des profs ou par des gens qui y travaillent, c'est moins d'une centaine de personnes, les gens dont on parle, hein, sur plusieurs milliers.
Mais il suffit de 10 personnes pour bloquer un amphi et ensuite faire un effet d'entraînement.
Philippe, c'est la minorité agissante dont parle Gabriel.
Voilà.
Hein, c'est vraiment
exactement.
Minorité active. On jette quand même pas sur tous les étudiants de Sciences Po.
L'opprobre.
Et a fortiori, tous les profs de Sciences Po, l'opprobre en disant, tiens, c'est un repère d'antisémite. À l'évidence, il y en a. À l'évidence, il y en a. Mais je crois qu'il ne faut pas que Sciences Po soit totalement amalgamé dans cette affaire.
Avant d'entendre Karim Abric et Jean-Sébastien Ferjou, j'aimerais que vous entendiez cet étudiant qui dénonce donc ce wokisme grandissant au sein de son école, étudiant de Sciences Po, interrogé par nos équipes.
Il y a évidemment des étudiants qui sont biberonnés à l'idéologie woke et gauchiste et qui mettent en œuvre chacune de leurs revendications par la violence et par l'obstruction vis-à-vis des autres étudiants. Les étudiants qui, comme moi, veulent suivre leurs cours font des mails à l'administration pour leur demander de débloquer puisqu'ils ont cette possibilité avec des policiers qui sont toujours à proximité rue Saint-Guillaume. Vous avez des étudiants qui parfois essayent de débuter un débat avec les bloqueurs, mais sans succès. Et puis le fait qu'il y ait cette impunité vis-à-vis de l'administration qui ne réagit pas, qui ne réagit jamais malgré les demandes, bah, à un moment il y a une forme de lassitude et donc on va suivre ses cours en visio au café, ou alors les cours sont reportés ou annulés tout simplement. Donc il y a une majorité silencieuse qui souhaiterait pouvoir vivre sa vie d'étudiant normalement, mais cette minorité radicalisée, avec la complicité de l'administration, nous en empêche.
Les wokistes et islamistes, main dans la main, pour retourner la société d'une certaine façon. C'est ce que l'on entend à travers les mots de cet étudiant.
En tout cas, ce qu'on comprend, c'est sûr que pour plusieurs étudiants juifs, en ce moment, c'est extrêmement difficile. Il y en a plusieurs qui sont obligés de littéralement se cacher, d'après ce qu'on entend, des témoignages. Et aussi, moi, ce que j'observe, c'est qu'il va y avoir aussi une contestation, une remise en question même des témoignages de la véracité.
Alors, on va y arriver. Alors ça, notamment à travers le député Thomas Porte qu'on va entendre juste après vous.
Ah, voilà.
Effectivement.
Donc, je trouve que c'est quand même assez troublant. Sur la question du wokisme, l'étendue du wokisme dans les universités, oui, tout à fait. Je pense qu'on peut parler dans ce cas-ci de conformisme idéologique.
Oui, ouais, c'est ça.
J'aurais dû dire ça plutôt qu'idéologie dominante.
Voilà. Non, mais c'est ça.
C'est le conformisme.
Il y a cette pression au conformisme idéologique qui, oui, est la grande tendance, beaucoup dans les sciences sociales, ben, c'est ce wokisme, c'est ces idées de gauche radicale qu'on voit en Amérique du Nord.
Il y a un peu de suivisme aussi, j'ai l'impression, de la part de certains. Notamment, c'est vrai qu'on avait vu notamment ces séquences aux États-Unis où ils scandent ces fameux slogans « From the river to the sea », du fleuve à la mer, en gros, sous-jacente l'idée de l'éradication d'Israël. Et quand vous faisiez des micro-trottoirs aux étudiants, mais de quel fleuve parlez-vous? Ils étaient un petit peu...
50% qui n'est voilà.
50% ne sait même pas de quel fleuve on parle. Voilà, et je ne parle pas de Mathilde Panot récemment qui ne savait pas si le Jourdain était à l'est ou à l'ouest de l'État d'Israël. Mais bon.
Selon les époques,
il y a du suivisme.
Oui, voilà, tout à fait. Selon les époques, à une certaine période, c'était le marxisme. Mais aujourd'hui, il y a cette idéologie, effectivement, de wokisme. Et d'ailleurs, si on regarde, il y a quelques jours, hein, c'était il n'y a pas si longtemps, la papesse, si vous voulez, du genre Judith Butler, qui est venue en France et qui a dit quand même ceci. Elle avait dit le 7 octobre, bon, pour elle, c'était un acte de résistance armée. Elle dit ce n'est pas une attaque terroriste, ce n'est pas une attaque antisémite. C'était une attaque contre les Israéliens. Bon, et le débat est lancé, l'université fait pour ça, mais quand vous avez ce genre de propos et que effectivement c'est un peu les leaders d'opinion, après on peut débattre sur ce qui se passe, bien sûr. Hein. Moi, je pense que bon, ce qui se passe à Gaza en ce moment, ça soulève évidemment l'indignation quand on voit des images.
Bien sûr.
Mais on bascule et effectivement, il y a une certaine minorité qui bascule.
Il ne faut pas comprendre le soutien à la cause palestinienne à celui du Hamas.
Voilà, et aussi sur le basculement. En littéralement aussi dans des propos et des actes antisémites aussi purs qu'on a observés et qui sont en hausse depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, depuis 7 octobre.
Et depuis le 7 octobre, plus de 1000%. Je crois que Tatiana l'a rappelé également il y a un instant. Vous avez évoqué Karima, ces députés qui parfois mettent un peu en doute, notamment ces dernières heures, ce qui s'est passé à Sciences Po. D'abord, je voudrais que vous lisiez avec moi le tweet du député FI Émeric Caron qui a adressé aujourd'hui un bravo. Tout simplement aux étudiants de Sciences Po qui se mobilisent contre le génocide en cours à Gaza. Merci Monsieur Caron pour ce soutien aux antisémites. Et puis Thomas Porte, le député LFI, vous dites
Rima Hassan aussi, la nouvelle...
Oui, mais je pourrais vous faire lire également le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Si on peut le retrouver en régie, le tweet de Jean-Luc Mélenchon de ces dernières heures. Mais déjà Thomas Porte, le député LFI tout à l'heure interrogé, écoutez-le.
J'apporte mon soutien à tous celles et ceux qui se mobilisent aujourd'hui contre ce qui se passe à Gaza, contre le massacre du peuple palestinien. Et je condamne tout ce qui se rapproche de près ou de loin à des propos antisémites, comme nous l'avons toujours fait. Nous sommes extrêmement clairs là-dessus. Maintenant, il y a une polémique qui est en train d'être instrumentalisée contre des étudiantes et des étudiants qui sont mobilisés sur la situation à Gaza. Moi, j'ai pas entendu de propos antisémites hier à Sciences Po. J'ai pas vu de vidéo avec des propos antisémites. S'il y a des propos antisémites, amenez-les-moi, montrez-les-moi, et je les condamnerai. J'ai toujours condamné les propos antisémites, mais hier, il n'y a pas eu de propos antisémites à Sciences Po.
Jean-Sébastien Ferjou, discours incroyable, je trouve, parce que quand il s'agit notamment, et c'est une très bonne chose, hein, d'agression sexuelle, par exemple, bah, la parole des victimes, on ne la vérifie pas, mais on croit, on fait confiance aux femmes. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas confiance aux juifs qui disent qu'ils ont été la cible d'antisémitisme? Pourquoi on demande des preuves là où dans d'autres cas on croit sur parole? De la part de LFI, hein. De la part de LFI.
La réponse est dans la question.
Bah oui, mais c'est quand même assez affligeant.
Il y a des gens qui confondent antisionisme, qui d'un point de vue théorique pourrait être différent d'antisémitisme. Dans la vraie vie, en général, les deux se superposent assez étroitement. Et la fameuse Judith Butler dont parlait Karima tout à l'heure, qui est venue aussi à l'école normale supérieure, à Normale Sup, la semaine dernière, elle disait justement à propos des viols qu'on nous montre la documentation. Ouais. Pas, je dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais enfin, j'ai pas vu la documentation. Et comme en plus, elle s'est rendue compte que ça avait généré quand même une petite polémique, elle est revenue dessus, elle a fait un nouveau texte dans lequel elle ne s'excuse absolument pas, elle dit que nous étions trop bêtes pour la comprendre. Évidemment, alors que... Si, en substance, c'est ce qu'elle explique dans ce... Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est la lâcheté des autorités de ce pays. Parce que, souvenez-vous, il y a 2 ans, à l'IEP Grenoble...
Mais il n'avait pas été là. Gabriel Attal, c'est important ce qu'il a fait aujourd'hui.
Oui, bien sûr, mais jusqu'à présent. Aujourd'hui, effectivement, Gabriel Attal semble décider à se saisir du sujet. Je suis assez surpris qu'il ait fallu plus de 24 heures à Sciences Po pour, mais vous l'avez évoqué, évoquer le caractère antisémite des faits. Mais je vous le disais, il y a 2 ans à Grenoble, vous vous souvenez, à Sciences Po Grenoble, les 2 profs qui ont été mis en danger, dont les noms oui. et les photos avaient été affichés sur les murs, à qui on reprochait d'être islamophobe et qui étaient menacés de mort. Vous vous souvenez qu'à l'époque, la ministre de l'Enseignement supérieur avait sommé la direction de l'établissement de s'expliquer. Les étudiants qui les avaient menacés n'ont pas été exclus. Les professeurs, ils sont toujours placardisés. Donc la réalité, c'est celle-là.
Et d'ailleurs,
vous de la ministre de l'Enseignement supérieur de l'époque qui avait annoncé...
Madame Vidal, je crois, non ?
Exactement, oui, Frédéric Vidal, ouais. qui avait annoncé une enquête sur... Et c'était elle qui avait employé l'expression « l'islamo-gauchisme dans le monde universitaire » et dont on s'est rendu compte ensuite qu'elle n'avait jamais... était lancé puisque le ministère de l'Enseignement supérieur a été contraint de le reconnaître dans une procédure judiciaire.
D'ailleurs, juste pour revenir très rapidement sur ce qu'on disait sur le directeur, donc démissionnaire aujourd'hui de Sciences Po, est-ce que il a une responsabilité un petit peu là-dedans? On a conclu au pas de vague ensemble il y a un instant. Je voudrais juste vous rappeler, j'ai entendu ça aujourd'hui, alors j'ai pas le moyen de le vérifier, mais j'ai entendu à plusieurs reprises que ce monsieur avait quand même un portrait de lui avec Yasser Arafat affiché dans son bureau. Donc ça fait sens d'une certaine manière. On parlait aussi...
Yasser Arafat, c'est pas la même chose.
Non, mais bon, quand vous avez une représentation, une idée sous-jacente, enfin, quand vous avez un portrait au-dessus de votre tête avec Yasser Arafat et que dans vos amphis, on remplace le nom de l'enfant par Gaza.
C'est pas le FPL, ni le FPL, mais surtout
Jean-Luc Mélenchon. Alors, Jean-Luc Mélenchon, lui, dont on a retrouvé le tweet tout à l'heure, donc à Sciences Po aussi, les indignations à géométrie variable sont écœurantes. Comment et pourquoi un incident dérisoire devient-il une affaire de cette ampleur médiatique nationale? Est-ce qu'en 30 secondes, on peut conclure et Tatiana et Arthur de Vatrigan, Tatiana Arlard-Barzac.
Vous le disiez tout à l'heure, Arthur, plus de 50% des étudiants à Sciences Po votent Jean-Luc Mélenchon. Voilà, la messe est dite. J'ai envie de vous dire, de toute façon, on est dans la droite lignée de ce que lui et son parti professent comme absurdité, immondice absolue depuis...
Est-ce que les propositions d'aujourd'hui de Gabriel Attal et ce point sur la table peuvent changer les choses?
Il faut une réponse extrêmement ferme. Et en fait, le problème, c'est qu'en matière d'antisémitisme, si les condamnations ne suivent pas, si la réponse n'est pas ferme pour montrer qu'en fait, on ne doit rien laisser passer, en fait, ça continuera. Et donc, c'est ça le souci. Et deuxièmement, par ailleurs, il y a une sorte de haine de l'État d'Israël qui s'est installée, qui est la première d'ailleurs cause de l'antisémitisme, mais qui fait, si vous voulez, qu'aujourd'hui, en fait, tout juif français est considéré forcément comme pro-Netanyahou et comme étant derrière...
Ce pauvre monsieur qui a été agressé dans le 20e.
Totale, ce qui est une aberration totale, parce que quand vous regardez précisément les choses, vous voyez qu'une grande partie aujourd'hui des Israéliens et des Juifs français aussi sont contre la politique de Benjamin Netanyahou. Et que le jour où cette guerre se terminera, il dégagera, il faut dire aussi les choses très clairement, telles qu'elles sont.
Ouais, mais parce que je voulais que Arthur dise un dernier mot, et en effet, ça nous rappelle ce que dit Tatiana, ce pauvre Marco, pour ne citer que lui, qui a été agressé dans le 20e en sortant d'une synagogue et qui en a dit « tu tues des Arabes à Gaza ». Amalgame total et permanent.
C'est une inversion du narratif, c'est quand même juste complet. Le 7 octobre, les Israéliens et les Juifs sont les victimes.
On conclut ?
Juste, il faudra peut-être se poser la question de la sélection qui n'existe plus à Sciences Po. À partir du moment où vous faites des politiques du quota, à partir du moment où vous faites du parcours sup,
il y a une sélection, mais
il n'y a plus de concours. Il n'y a plus de concours d'entrée. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le symbole de la politique de l'excellence qui a été flinguée. Merci Bourdieu. Donc, c'est politique de quota. 50% des étudiants de Sciences Po sont étrangers.
C'est bien d'ouvrir Sciences Po. C'est bien d'avoir ouvert Sciences Po à d'autres profils et à une autre forme d'élite également que celle qu'on connaissait jusqu'alors. Il ne faut pas tout jeter non plus.
Vous n'êtes plus capable d'avoir un esprit critique.
Je suis pas d'accord.
Regardez la date. Mais je parle pas de mixité là. Il y a des gens.
On arrive à faire entrer des jeunes des quartiers qui n'avaient pas.
Mais là, il y a une idéologie qui est en train de dominer là.
Mais c'est pas hypothétique du quota. Le jeune du quartier, il rentre parce que c'est un jeune du quartier ou parce qu'il est bon?
C'est plus pervers que ça.
Il y a beaucoup d'entretiens. Allez. On demande beaucoup justement aux potentiels étudiants ce à quoi ils croient. Ils sont recrutés pour leur origine, mais ça peut avoir du sens en termes d'ouverture et de mixité sociale, mais ils sont aussi recrutés justement par rapport à la fameuse soumission au conformisme idéologique dont vous parliez. C'est ça aussi. Et quand même, d'un dernier mot, moi je trouve ça délirant que le directeur de Sciences Po démissionne pour une dispute conjugale où il n'y a pas de plainte. Hein. Il n'y a pas de plainte. Sa compagne n'a pas porté plainte.
Il y a une pression depuis des mois, Jean-Sébastien.
Oui, mais quand même, ça me choque.
C'est un autre sujet.
Ce pays. Non, ça n'est pas un autre sujet.
Bah si, parce que là, je dois avancer.
Est-ce que ça veut dire que ça ne pose pas de problème qu'il y ait de l'antisémitisme à Sciences Po, mais que ça pose un problème que le patron de Sciences Po ait une dispute conjugale?
Très bien.
Sans condamnation.
Question suivante.
C'est son combat quand même, quand il y a.
Chers amis, question suivante. Faut-il accepter les pauses en plein match pour rompre le jeûne du Ramadan? La réponse et à cette question est non pour la Fédération française de football qui maintient sa position déjà tenue l'an passé. La FFF s'appuie sur ses statuts, son code d'éthique et de déontologie qui interdit cette pratique au même titre que le port du voile qu'elle considère comme un acte de prosélytisme ou une manœuvre de propagande. Écoutez l'islamologue Razika Adnani, invitée de CNews ce matin. Pour elle, il s'agit d'une bonne décision.
Il y a aujourd'hui une montée du religieux au sein de la communauté musulmane, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. Et ces revendications comme le voile et le jeûne s'inscrivent dans cette envie d'imposer sa religion et même une certaine conception de la religion. Donc je pense que la décision de la Fédération française du football est tout à fait ce qu'il fallait faire, étant donné qu'instaurer ce genre de pause pour arrêter, je veux dire, les matchs, c'est instaurer une certaine atmosphère ramadanesque, comme je l'appelle, au sein du stade, et imposer cette atmosphère à tous les joueurs, à tous les téléspectateurs, mais aussi à tous les supporters.
Madame Adnani qui dit également, je pense que les musulmans eux-mêmes ne doivent pas accepter une telle chose, car quand on veut vivre avec les autres, on doit s'interroger sur son comportement, ce qu'on impose à l'autre, et ce que l'autre peut accepter, et comment il peut le percevoir aussi. Commentaire, Philippe, oui, la FFF prend ses responsabilités, il faut savoir, pour que on ait les éléments de contexte, que en Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas, ces ruptures de jeûne en plein match sont autorisées.
Oui, mais la FFF est dans la tradition française de la laïcité. D'ailleurs, elle a une délégation de service public, donc c'est assez logique qu'elle respecte le cadre.
Il ne s'agit pas de faire une prière sur la pelouse, hein. Il s'agit de manger un fruit ou de boire une bouteille d'eau.
Oui, mais de faire une pause pour cela.
Ouais.
De faire une pause pour cela, donc d'imposer la pause quand même aux autres. Or, qu'est-ce que c'est la laïcité? Donc la FFF a un règlement assez constant. Il faut se souvenir qu'il s'était la FFF s'était vu opposer les hijabeuses qui voulaient imposer la tenue du hijab lors de matchs de football, que la FFF a tenu bon et a fini par gagner devant la jurisprudence administrative. Donc la FFF a un discours et des statuts qui sont constants sur la question. La laïcité, c'est quoi? C'est de dire, finalement, au-delà des aspects strictement juridiques, c'est une philosophie. C'est de dire, c'est parfaitement respectable la religion et vos pratiques. Mais simplement dans la vie sociale et dans la vie publique.
Le sport n'a pas embrassé la religion.
Vous la mettez de côté un petit peu, voilà. Et vous n'imposez pas aux autres vos croyances et vos pratiques. Voilà.
Évidemment, certains crient à l'islamophobie. Karima, vous voulez réagir? Arthur, Tatiana également?
Évidemment, on va s'y attendre. C'est toujours la première accusation. Mais je veux juste revenir. Moi, je respecte la décision donc de la FFF. Et c'est aussi de dire, est-ce qu'on privilégie une certaine vision de la manifestation de la religion aussi, parce que bon, si on parle dans ce cas-ci, par exemple pour les musulmans, c'est pas tout le monde qui vont pratiquer nécessairement le jeûne, ou il y a aussi
ceux qui le pratiquent.
Oui, oui, c'est ça. Donc ce que je veux dire, c'est que aussi, c'est comme si on choisissait de favoriser ou de une façon de vivre la religion plutôt qu'une autre, alors que la religion se vit et se pratique de différentes façons, que vous soyez catholique, musulman ou quoi que ce soit. Donc là-dessus, je pense que la FFF, avec bon son principe de laïcité, d'un peu plus de neutralité qui met le sport en avant, ben oui, je pense qu'on peut respecter sa décision.
Gilles, avec cette décision, on comprend bien, et à juste titre, Philippe, Tatiana le font remarquer, le sport n'a pas embrassé la religion, comme je le disais. Mais dans ce cas, si je pousse un petit peu la réflexion et que j'essaye de complexifier un petit peu le raisonnement, ben, interdisons aux joueurs de se signer, de faire des références à Dieu sur le terrain lorsqu'ils entrent sur la pelouse.
Il y a une différence.
Si la religion n'a pas de place dans le sport.
Bien sûr, mais là, c'est une escroquerie. Parce que l'affaire qui s'est passée en juin dernier, en mai dernier, la Fédération française avait déjà interdit.
Oui, c'est la deuxième année de suite.
Oui, sauf que les dernières, si vous regardez sur le site de la Fédé...
Avril dernier.
Déjà, c'est la Fédération française de foot, donc c'est le football amateur.
Oui, bien sûr.
Pas de football.
Vous faites bien le football professionnel est régi...
C'est que le foot amateur.
Le football professionnel est régi par la LFP, la Ligue de foot professionnel.
Ça ne concerne pas le foot professionnel.
Vous avez raison.
La dernière fois, c'est le foot pro qui était intervenu, alors que ça ne les concernait pas. Donc l'année dernière, il y a eu une étude, il n'y avait aucun match de foot amateur qui se commençait ou qui finissait au moment de la rupture. Donc c'était le sujet.
Ah oui, d'accord.
Donc en fait, on sait que c'est une escroquerie. Ensuite, la pause fraîcheur, dans un match de foot, ça dure 90 minutes pour ceux qui l'ont pratiqué. En minutes effectives, c'est 65 minutes. Vous avez de multiples possibilités de prendre une bouteille d'eau, de manger une barre protéinée.
Donc là, vous avez une mi-temps.
Et en plus, il y a la mi-temps. Donc vous prenez une barre, ça prend deux secondes, vous pouvez le faire sur le banc de touche, c'est pas un souci. Donc là, on est juste sur un principe de vouloir entrer, de faire arriver avec un porte-étendard de l'islamisme dans la société. Ça s'appelle une conquête de visibilité, sachant qu'on sait que le milieu du sport devient, d'après un rapport sénatorial de 2017, après la prison, le lieu le plus radicalisé de l'islamisme.
Là où je suis assez d'accord, où c'est assez convaincant ce que dit Arthur de Vatrigan, Tatiana, pour conclure, c'est que est-ce qu'il y a besoin d'officialiser les choses? En effet, il suffit d'un arrêt de jeu au moment d'une faute, d'un carton jaune ou je ne sais quoi. Le joueur va sur le côté, il prend un coup de bouteille d'eau ou il mange une date, il s'hydrate, et puis c'est terminé. On n'en parle pas. Il n'y a même pas à légiférer, à officialiser quoi que ce soit, en fait. C'est un non-sujet. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit.
Moi, je peux comprendre que certains se posent la question et qu'on se dise, en fait, au final, on est fait aller boire un verre d'eau, etc. Pourquoi pas, voilà. Cela dit, je pense que vous évoquiez tout à l'heure l'exemple de l'Angleterre, de l'Allemagne, des Pays-Bas. Ça n'a rien à voir. Le modèle anglais, c'est un modèle de multiculturalisme, culturalisme, je vais y arriver.
Après, j'ai ajouté, il y a l'Allemagne, les Pays-Bas aussi.
C'est opposé au principe de laïcité française. Donc, le problème, c'est que nous avons des joueurs, en effet, qui sont internationaux et qui sont donc très imprégnés de cette culture. Mais malheureusement, ce n'est pas la nôtre. Et donc, je comprends le principe de la FFF parce que, en fait, le problème, c'est pas tant de faire cette petite pause pour aller boire. Et on pourrait dire pourquoi pas, en fait. Le problème, c'est qu'en fait, quelque part, ça
fait
sacraliser cela. Et donc, du coup, on crée, en fait, une sorte de précédent, une rupture d'égalité. On fait pas, par exemple, de pause pendant le carême pour des. Bon. Donc, si on s'engouffre dans cette brèche, en effet, pourquoi, en ce cas-là, on interdit les hijabeuses, pourquoi on interdit le port du voile, enfin, donc je pense qu'on s'engouffre dans une brèche qui du coup est une porte ouverte à un moment donné à quelque chose qui devient plus compliqué.
Allez, en 20 secondes, parce qu'en effet, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet, Jean-Sébastien, avant le journal, et de parler de Vladimir Poutine et de la nouvelle menace nucléaire.
Arthur a très bien fait de rappeler à quel point c'est un projet politique, c'est-à-dire que ce n'est pas une revendication qui émane du terrain, c'est véritablement un projet, une vision politique, et c'est le projet non seulement de gagner en visibilité, mais on l'a rappelé, c'est dans le football amateur, c'est la pression qui existe, parce que le sujet, ce n'est pas qu'il y ait des gens qui pratiquent le ramadan, c'est leur droit le plus strict, évidemment, et c'est éminemment respectable, comme il est évidemment éminemment respectable d'être musulman. Le sujet, c'est la pression sur les autres.
C'est-à-dire sur ceux qui, c'est ce que disait l'islamologue.
Et c'est ce que disait aussi Karima, sur ceux qui potentiellement ne font pas le ramadan alors même qu'ils sont musulmans, c'est et juste. Avec cette pression, parce que les islamistes partout dans le monde ont utilisé cette observance pour faire avancer leur cause.
C'est terminé. Merci beaucoup. Maureen Vidal pour l'essentiel de l'actualité. Il est 23h. Merci de nous rejoindre sur CNews. Dans un instant, c'est le général Bruno Clermont qui nous rejoindra en plateau. Large partie consacrée donc aux dernières déclarations de Vladimir Poutine qui met encore un peu plus la pression sur l'Occident. Maureen Vidal. «
La laïcité à l'école, plus que jamais menacée, a déclaré Gabriel Attal. Le Premier ministre promet la mise en place de cellules d'appui pédagogique pour aider les professeurs confrontés à des résistances, voire des contestations de leur enseignement. Les ennemis de la laïcité sont, selon lui, politiques et religieux. 5 milliards d'euros pour l'achat d'armes pour l'Ukraine. Les 27 ont trouvé un accord pour l'Ukraine qui réclame depuis des mois davantage de munitions face aux forces russes. Après un peu plus de 2 ans de guerre, l'armée est en manque d'effectifs et de munitions. L'UE a déjà dépensé plus de 6 milliards d'euros dans le cadre de sa Facilité européenne pour la paix, destinée à rembourser les livraisons d'armes effectuées par certains États membres. Enfin, la dépollution de la Seine sera prête pour l'été prochain, a déclaré le préfet de la région d'Île-de-France. Une innovation considérable lors des Jeux olympiques qui marqueront les retrouvailles de la nage avec la Seine.
Et là, énorme orage, 2 jours avant l'épreuve de nage en eau libre. Et la Seine est de nouveau polluée. Merci beaucoup Maureen Vidal pour l'essentiel. On vous retrouve dans une trentaine de minutes. Bonsoir Général Bruno Clermont. Merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer les nouvelles menaces de Vladimir Poutine, consultant défense, général de corps aérien. Merci donc de nous accompagner pour la suite de cette émission. Vladimir Poutine qui agite, je le répète, de nouveau la menace nucléaire. La Russie est prête à faire face à une guerre nucléaire. Ce sont les nouvelles menaces du chef de Clermont, du Kremlin. Clairement, c'est autre chose, c'est vous-même. Aujourd'hui, pardonnez-moi, dans un entretien télévisé, le président russe qui a également réagi aux récents propos d'Emmanuel Macron sur le possible envoi de troupes occidentales en Ukraine et sur le soutien sans ligne rouge à Kiev. Nous non plus n'avons plus de ligne rouge à scène. Vladimir Poutine, premier extrait.
D'un point de vue militaro-technique, nous sommes bien sûr prêts. Les troupes russes sont constamment en état de préparation au combat. C'est la première chose. Deuxièmement, et c'est aussi une chose généralement admise, notre triade, la triade nucléaire, est plus moderne que n'importe quelle autre triade. Nous sommes les seuls, avec les Américains, à disposer d'une telle triade. Et nous sommes beaucoup plus avancés dans ce domaine. Nous sommes prêts à utiliser des armes, n'importe quelle arme, y compris les armes que vous avez mentionnées, s'il s'agit de l'existence de l'État russe ou d'une atteinte à notre souveraineté et à notre indépendance.
Général Bruno Clermont, commentaire sur cette nouvelle mise en garde de Moscou.
Écoutez, Poutine fait du Poutine.
Ouais.
Il fait du Poutine au moment où, effectivement, il y a eu des annonces des Occidentaux qui ont un peu réveillé ce rappel de la menace nucléaire de la part de la Russie, mais une menace qui est présente depuis maintenant 2 ans, à laquelle on est habitué.
Là, on est quand même depuis 3 semaines dans un ping-pong assez rythmé, j'ai envie de dire. Les petites invectives et les menaces s'enchaînent de façon assez régulière ces 3 dernières semaines. Oui. Et je pense qu'une partie des gens qui nous regardent commencent à s'inquiéter. Est-ce qu'il faut qu'on s'habitue à vivre avec ce type de menaces ? Parce que là, la vérité, c'est qu'on est dans une guerre psychologique.
On est dans une guerre psychologique, c'est vrai. Donc moi, je veux rassurer les gens qui nous écoutent. Il n'y a pas plus de risque aujourd'hui d'une guerre nucléaire qu'il y a 2 ans, alors qu'on nous avait annoncé, il y a 2 ans, une guerre nucléaire chaque semaine, pratiquement. Donc les conditions d'une guerre nucléaire ne sont pas remplies. Poutine fait simplement rappeler qu'il est une puissance nucléaire, qu'il estime qu'il a des intérêts vitaux. Nous, on s'appelle ça des intérêts vitaux, ils appellent ça des intérêts existentiels, qui pour lui, visiblement, on commence à comprendre que probablement, ce n'est pas certain parce qu'il ne les a pas utilisés, la partie d'Ukraine qui contrôle la Crimée peut faire partie de ces objectifs existentiels pour la Russie. Donc c'est effectivement le fait d'avoir... On va évoquer 2 sujets, cette dissuasion. Après, on viendra sur les lignes rouges, mais sur la dissuasion. Les Russes sont prêts, les Français sont prêts, les Américains sont prêts, tout le monde est prêt. La dissuasion nucléaire, par principe, c'est d'être prêt pour dissuader l'autre de ne pas s'attaquer à ses objectifs vitaux. Par contre, ce qu'on sait, peut-être pour encore rassurer les gens qui nous écoutent, c'est que, à ma connaissance, et d'ailleurs les services américains l'ont confirmé.
Et comment on peut rassurer les gens quand le chef de la première puissance nucléaire mondiale passe ses journées à nous dire qu'il est prêt pour une guerre nucléaire ?
Mais c'était vrai il y a deux ans, il n'y a toujours pas eu de guerre nucléaire, il n'y a pas de raison, les conditions ne sont pas du tout remplies.
Vous ne trouvez pas que le ton actuel, notamment, je me rappelle il y a une semaine, ce discours à 15 jours de l'élection présidentielle en Russie, il y avait un aspect très solennel qu'il n'y avait peut-être pas, et une France nommée également ces derniers jours, alors que ce n'était pas forcément le cas non plus. On se dit que Emmanuel Macron a joué un petit peu avec le feu. Voilà ce que se dit l'opinion.
Alors, Emmanuel Macron joue avec le feu dans la mesure où ce qu'il avait évoqué comme étant une possibilité qui n'était pas exclue, l'envoi de troupes occidentales en Ukraine, déclencher cette réaction de Vladimir Poutine. Pour l'instant, il n'y a pas d'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Il y a une ligne rouge dans ce conflit qui est maintenue étroitement entre les services américains et les services russes depuis le début, c'est qu'il ne doit pas y avoir d'escalade. Pour qu'il n'y ait pas d'escalade, il faut qu'il n'y ait pas de force de l'OTAN en Ukraine. Donc c'était ça le deal. Et en fait, le président Macron, quand il a évoqué cette éventualité, a passé, en tout cas, cette ligne rouge dans la manière déclaratoire. Et donc ça a provoqué cette réaction de la Russie. Mais la Russie, c'est peut-être 10 fois qu'on attend une menace nucléaire de la part de la Russie. C'est pas la première fois, c'est la 10e fois. Et je termine sur un point qui est important.
Bien sûr, allez-y.
C'est le fait qu'on n'a pas noté de monter en puissance particulière, d'alerte renforcée des forces nucléaires russes. Elles sont aujourd'hui au niveau d'alerte qu'elles l'étaient il y a un mois, il y a 2 mois. Donc il n'y a pas vraiment, on est vraiment dans la gesticulation, dans la menace nucléaire, mais la dissuasion nucléaire, c'est
mais le ton
menace
a changé, les mots sont forts, les gens qui ne sont pas qui n'ont pas le nez dans ce conflit,
ça fasse peur, voilà. C'est normal que ça impressionne, mais c'est pour ça qu'il faut expliquer ce qu'il y a derrière les mots, c'est une stratégie d'intimidation qui est le propre même de la dissuasion.
On va évidemment faire un tour de plateau, échanger tous ensemble, mais j'ai encore une question avec vous, mon général.
Sur les lignes rouges.
Alors allez-y, sur la ligne rouge, et Vladimir Poutine qui dit que lui non plus n'a pas de ligne rouge.
En fait, les deux camps n'ont pas de ligne rouge. Sauf que les deux camps, on n'a pas de ligne rouge, mais on ne veut pas l'escalade. C'est ce que dit le président Macron. On ne veut pas de ligne rouge, mais on ne veut pas faire la guerre contre la Russie. Et bien, de la même manière.
Alors c'est quoi le fond de la pensée d'Emmanuel Macron ?
Poutine n'a pas de ligne rouge, mais il ne veut pas d'escalade non plus. Son intérêt, c'est que l'OTAN ne rentre pas dans la guerre. Personne ne le souhaite, Poutine ne le souhaite pas. Il veut s'occuper de l'Ukraine en tenant l'OTAN à distance. Donc, en fait, on a à peu près, de ce point de vue-là, la même approche des lignes rouges.
Alors, justement, vous parliez de l'OTAN. Cette question lui a été posée aujourd'hui. Est-ce que, si une aide occidentale arrivait, comment réagiriez-vous ? Écoutez ce qu'il pense d'une éventuelle arrivée ou entrée en guerre de troupes occidentales à l'image de celle de l'OTAN.
Si nous parlons des contingents militaires officiels des pays étrangers, je suis sûr que cela ne changera pas la situation sur le champ de bataille. C'est le point le plus important. Tout comme la fourniture d'armes ne change rien.
Poutine qui balaye d'un revers de main ses velléités d'augmenter l'aide en Ukraine.
C'est une phrase étonnante parce que ça laisse penser qu'il est prêt à accepter la présence de troupes occidentales.
Est-ce que ça ne lui fait pas peur ?
Que ça ne change rien du tout. Mais là, on est dans une espèce de jeu de poker manqueur, le jeu de la dissuasion, la ligne rouge. L'escalade, c'est Poutine qui décidera si on escalade ou pas. C'est pas nous qui allons décider. En fonction de ce qui se passera sur le terrain, du contexte sur le terrain, il faut bien comprendre, je pense que pour bien mettre tout ça dans le contexte, c'est que c'est une deuxième guerre qui commence. Au bout de 2 ans, deuxième guerre qui commence. C'est quoi ? La première guerre, c'était une guerre dans laquelle les Ukrainiens devaient prendre l'avantage sur les Russes, reconquérir du territoire et étaient largement aidés par les Américains, qui fournissaient 80% de l'aide militaire. Et même avec les 80% de l'aide militaire, ils ne sont pas arrivés à reprendre leur territoire. Et là, dans une situation dans laquelle aujourd'hui, les Ukrainiens se mettent en position défensive, puisque Zelensky a annoncé qu'il faisait installer 2000 km de lignes défensives pour repousser cette fois-ci une offensive de la Russie. Et cette fois-ci, comble du total, les Américains risquent de faire défaut totalement dans le soutien des Ukrainiens. Donc c'est vraiment une deuxième guerre qui commence. Et de ce point de vue-là, finalement, Poutine est rassuré. Les Ukrainiens risquent de perdre leur principal soutien qui sont les Américains. Et c'est lui maintenant qui peut passer à l'offensive.
Arthur de Vatrigan, on entame un tour de plateau avant de revenir vers vous, mon général. Emmanuel Macron, demain à 20h en simultané sur TF1 et sur France 2 en interview. Est-ce que le président de la République doit calmer le jeu ou continuer de bomber le torse ?
C'est compliqué parce que il va s'adresser aux Français ou il va s'adresser à Poutine ? Parce que moi j'ai l'impression que quand il parle de l'Ukraine, il parle que en fait aux Français et que on est dans l'espèce de revival de 2022 où l'élection européenne devient pour le sujet de l'Ukraine un prétexte pour Emmanuel Macron de si vous êtes avec moi ou contre moi et vous votez avec moi ou vous êtes contre moi.
Séquence du vote au Sénat d'hier, du vote à l'Assemblée et au Sénat aujourd'hui.
Si va sur France 2 ou TF1, c'est pour parler aux Français, c'est pas pour parler à Poutine. Donc,
le Kremlin entendra ce qui sera dit. Hein.
Mais bon, je pense que si on veut éviter une escalade, ou au contraire monter les muscles, il y a d'autres canaux plus fins pour le faire qu'à 20h. Moi, c'est ça qui m'ennuie, parce que là, en effet, la question qui se pose, c'est les Américains se retirent. Parce que l'élection, parce que le Pentagone, parce que tout ça. Donc, c'est-à-dire que tous les gens qui espèrent une troisième voie européenne, on se dit, il y a un créneau à prendre. Et dans l'Europe, bon, à part les Anglais,
il faut autre chose qu'une épée de bois pour s'attaquer à Vladimir Poutine.
Mais le problème, c'est avec quoi ? C'est avec quoi ? Donc, si vous voulez relancer une économie de guerre, c'est investir 10 milliards et 10 milliards par an. Et que là, on sait qu'aujourd'hui, en guerre intensive, d'après ce qu'on nous dit, c'est 3 jours qu'on a, au niveau de, on est une armée professionnelle, donc en nombre, on est en dessous de Poutine. Et en plus, dès qu'il a annoncé quelque chose, il y a tous ses alliés qui ont fait non. Donc c'est quand même compliqué de mener une guerre sans pognon, sans armée, avec le peuple qui veut pas et des alliés qui vous humilient, quoi. Alors que je pense qu'en effet, il y a un créneau qui est intéressant et que malheureusement, pour des raisons électoralistes, Emmanuel Macron pense plus à la politique française qu'à la politique internationale.
Alors pardon, je reviens juste un instant vers le général Clermont parce que ce que vient de dire Arthur de Vatrigan est intéressant. Est-ce que quelqu'un dans ce pays croit que, ou ailleurs d'ailleurs, que les armées occidentales sont capables d'intimider Vladimir Poutine ?
Ça, c'est une bonne question.
Qui pense que l'armée française serait capable de vaincre la Russie
Non, mais il n'est pas question que l'armée française rentre en guerre contre la Russie. Ce n'est pas du tout le projet, ce n'est pas du tout le plan. Ça a été très bien évoqué. Poutine a compris que le retrait des Américains va aller mettre l'Ukraine en faiblesse. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour inviter une défaite et un effondrement de l'Ukraine ? Le terme d'effondrement de l'Ukraine, la première fois qu'il a été employé, c'est par un Français, c'est par le ministre des Affaires étrangères. Moi, je n'avais jamais entendu personne parler de l'effondrement de l'Ukraine. Et un des arguments qui était de dire qu'il faut remobiliser les Européens, c'est parce que le danger, maintenant, c'est l'effondrement de l'Ukraine. Avec toutes les conséquences que peuvent avoir l'effondrement de l'Ukraine sur la chaîne de sécurité, avec des hypothèses qui ne sont pas forcément toutes
avérées. Éviter l'effondrement de l'Ukraine, ça veut dire vaincre la Russie. Ça veut dire, et qu'est-ce que ça veut dire vaincre la Russie ?
C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron.
Non.
C'est pas forcément.
Non,
c'est
parce que vaincre la Russie, on ne sait même pas ce que ça veut dire vaincre la Russie. C'est lui faire payer des dommages de guerre ? C'est récupérer la Crimée, lâcher le Donbass, juger les dirigeants ? Qui peut croire à ça ?
Les mots ont un sens. Mm-hmm. La seule fois où le président a dit il faut la défaite de la Russie, c'était d'ailleurs dans le discours qu'a suivi le fameux 26 février, il a jusqu'à présent quasiment systématiquement, et c'est repris d'ailleurs par Gabriel Attal dans la démonstration qu'il a faite, dans les explications qu'il a données au Parlement, on parle d'éviter la victoire de la Russie. C'est pas pareil, éviter la victoire de la Russie et vouloir la défaite.
La dernière fois, il a dit qu'il était hors de question d'accepter que la Russie gagne.
Oui, c'est ça, c'est éviter la victoire.
Il y a un moment, on va arrêter de jouer sur les mots.
Non, je ne joue pas sur les mots. Je vous donne un exemple très simple.
Et si la Russie ne gagne pas, elle ne perd pas.
Je vais vous donner un exemple très simple. Alors évidemment, il ne va pas plaire à tout le monde, parce qu'on va dire, si aujourd'hui, il y a un cessez-le-feu et que les positions sont gelées.
Et que les
positions sont gelées, pardon. Il y a un accord de cessez-le-feu qui conclut que finalement, les deux parties, le rapport des forces est équilibré. Poutine estime que ça suffit. Zelensky estime qu'il ne peut pas gagner plus. On peut très bien avoir un cessez-le-feu. Et il n'y a pas de victoire de la Russie.
Mais il récupère le Donbass quand même.
La victoire de la Russie, c'est la chute de Kiev. La victoire de la Russie, c'est la chute.
C'est encore le but de Vladimir Poutine. C'est le but de guerre, la chute de Kiev.
On connaît pas.
Ça a été abandonné il y a longtemps.
On ne connaît pas le but de guerre de Poutine, mais on peut imaginer que s'il récupère les kilomètres carrés les uns après les autres facilement, parce qu'en face il n'y a plus assez de munitions, il puisse décider d'aller jusqu'à Kiev. Ça fait partie des possibilités. Et quand on parle d'effondrement de l'Ukraine, on parle bien de ça, on parle pas simplement de s'arrêter au Donbass.
En tout cas, pour Joe Biden et pour l'état-major américain, Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine et c'est bien pour ça qu'il faut continuer à aider Kiev. Écoutez-le.
Le Congrès doit adopter dès maintenant le projet de loi bipartite sur la sécurité nationale qui prévoit un financement urgent pour l'Ukraine. Nous devons agir avant qu'il ne soit littéralement trop tard, car comme la Pologne s'en souvient, la Russie ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Poutine continuera, mettant en danger l'Europe, les États-Unis et l'ensemble du monde libre.
Jean-Sébastien Ferjou.
Il y a deux dimensions dans le discours. Il y a la dimension lutte d'un modèle contre un autre, c'est-à-dire le modèle régime autoritaire contre le modèle de démocratie occidentale. Parce que ce qui intéresse la Russie, c'est probablement pas d'entrer dans un conflit militaire avec l'Occident, c'est de décrédibiliser le modèle de démocratie occidentale. Et c'est ce que recherche assez largement la Chine aussi, notamment pour pouvoir, eux, dire à leur propre population, regardez, c'est pas mieux chez le voisin. Et c'est aussi pour ça qu'ils appuient beaucoup sur les fractures, d'ailleurs, dans les opinions des sociétés occidentales. Après, moi, je ne crois pas que les États-Unis sont en train, ou à la veille, et même quand bien même Donald Trump serait élu, d'entrer dans une phase de néo-isolationnisme. Ils sont dans une réflexion différente. Ils sont dans ce qu'ils appellent Asia First, la priorité à l'Asie. Quand vous regardez les think tanks américains, y compris les think tanks de sensibilité républicaine, ils ne disent pas qu'ils veulent se désengager totalement de l'Europe. Ils disent qu'ils réallouent leurs moyens et que finalement les Européens étant quand même pas les plus pauvres de la planète, ils peuvent consacrer eux-mêmes plus d'argent à leur défense. Ça ne veut pas dire qu'ils veuillent totalement renoncer à ce conflit-là. Et justement, et Joe Biden le rappelait, je pense que dans le Parti républicain, ne nous y trompons pas. Ça n'est pas parce que Donald Trump fait un argument de campagne contre Joe Biden que nous sommes à la veille de voir les États-Unis se retirer. Maintenant,
mais ce serait bien quand même.
pour aller dans le sens de ce que disait le général Clermont aussi, moi je crois qu'il y a une rationalité à ce qu'a dit Emmanuel Macron. On peut toujours, c'est malheureux avec lui, il y a toujours une dose de cynisme ou d'instrumentalisation ou de raisons politiciennes qui font que ça gâche l'intérêt de ces messages. Mais se poser la question de l'effondrement, si à l'été prochain il y avait un effondrement militaire européen, que fait l'Europe? Alors, bah, avoir posé cette question-là en amont, ça n'est pas absurde, même si par ailleurs, il joue cette question-là aussi vis-à-vis de l'opinion française.
Cette question n'est pas inintéressante et surtout quasiment d'ailleurs primordiale dans les temps que nous vivons, mais c'est la façon dont ça a été formulé initialement par le président de la République qui pose question. Mais est-ce qu'il faut faire pression pour une vraie défense européenne, sachant qu'on ne peut a priori pas compter sur les Américains et que de toute façon, ce serait peut-être bien qu'un jour que l'Europe soit maître de son destin en termes d'armée et de défense. Alors, je fais un petit tour général. Et évidemment, vous êtes mon repère privilégié pour ces questions. Je reviens très vite vers vous. Tatiana.
Deux choses. D'abord, Poutine, évidemment, répond aux propos d'Emmanuel Macron. Et donc, il est aussi dans son rôle de répondre à cela. Cela dit, l'Europe, en effet...
Est-ce que c'est le moment de faire pression pour une défense européenne, selon vous?
Plus que ça. Écoutez, là, il y a un exercice grandeur nature de l'OTAN, avec 90 000 soldats à l'heure actuelle, qui est le plus gros exercice depuis la guerre froide. C'est pas par hasard. Si les 31 membres de l'OTAN, que la Suède d'ailleurs s'apprête à intégrer, font cela, c'est parce qu'ils considèrent quand même qu'à un moment donné, il y a peut-être une menace possible prégnante et qu'il faut donc se préparer par ailleurs.
Donc on n'est pas que dans la gesticulation, pardon, mais...
On est en tout cas dans la préparation, disons. Cela dit, je vais me placer là sur un plan politique. Bon, d'abord, je rappelle quand même juste qu'on est à quelques jours, vendredi, ont lieu les élections présidentielles russes. Donc accessoirement, c'est un message à l'international, mais aussi à son peuple qui donne Vladimir Poutine. Je rappelle accessoirement que là, le bras droit de Alexei Navalny a été attaqué à coups de marteau à Vilnius.
On va y venir, ouais.
Non, mais ça montre la pression qu'il met aussi sur son peuple. Et la façon dont il montre qu'il veut, en effet, il a des velléités d'expansion dans une économie de guerre, puisqu'il est en économie de guerre à l'heure actuelle. Deuxième chose, pour ce qui est du président Emmanuel Macron, quel est son rôle demain soir? C'est de rassurer, parce qu'évidemment, les Français ont eu très peur quand ils ont entendu ça, quand ils entendent Vladimir Poutine qui explique qu'il pourrait y avoir, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, qu'il y a le risque d'une guerre nucléaire. Évidemment que les Français ont peur.
Dans ce cas-là, il faut appeler une économie de guerre.
Par ailleurs, ils se questionnent quand ils voient qu'il y a 3 milliards d'euros qui va être alloués à l'Ukraine, quand par ailleurs l'État se serre la ceinture.
Dans la situation que vous décrivez, le président de la République demain doit annoncer que nous entrons en économie de guerre.
D'où le discours de Gabriel Attal hier, premièrement brandissant la menace. En fait, qu'est-ce que Gabriel Attal a voulu mettre sur la table? Toutes les menaces possibles, non seulement migratoires, 15 millions de réfugiés ukrainiens, économique, dramatique pour la France, sur le pouvoir d'achat, la flambée énergétique, le pouvoir d'achat, c'est ce que dit. Et en fait, ça va être le créneau d'Emmanuel Macron. En fait, il faut comprendre aussi que c'est un enjeu, ça va être un enjeu des élections européennes qui arrivent le 9 juin. Emmanuel Macron souhaite le mettre au cœur de sa campagne. Je dis pas du tout que c'est une question de stratégie politique, mais je dis qu'en tout cas, là, il a peut-être agité un chiffon rouge qui fait qu'il a déclenché une peur chez les Français qu'il n'attendait peut-être pas, parce que la réaction de Vladimir Poutine est à la hauteur de ce qu'il a déclenché.
Général, question très simple. Et Karim Abrik et Philippe Guibert, vous prenez la suite. Question très simple.
Oui.
Pardon même de vous la poser, parce que vous allez peut-être la trouver stupide. Mais qu'est-ce qui nous sépare aujourd'hui d'une troisième guerre mondiale?
Le fait que la Russie n'a pas attaqué l'OTAN. Quand on dit que Joe Biden dit la Russie ne s'arrêterait pas à l'Ukraine, ça veut dire qu'elle va aller au-delà de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'Ukraine? Il y a la Pologne, il y a les Pays-Baltes, ils sont membres de l'OTAN, il y a l'article 5, ils sont protégés par les 32 pays, puisque la Suède est membre depuis pas très longtemps, et par le parapluie nucléaire américain. Donc là, effectivement, c'est la Troisième Guerre mondiale. Une guerre dans laquelle nous serons obligés, par solidarité avec les Polonais, les Baltes, d'envoyer les soldats français dans une guerre... sur les pays de l'Est.
Et pour l'instant, personne n'est prêt en Europe et les armées ne sont pas calibrées pour un conflit de haute intensité avec la première puissance nucléaire mondiale.
On ne voit pas comment un pays comme la Russie, qui au bout de 2 ans n'est pas arrivé à venir à bout de l'Ukraine, qui était quand même même pas dans les classements des puissances militaires avant l'attaque, se lancerait dans une guerre contre 32 pays dont les États-Unis. On a du mal à l'imaginer.
D'autant, juste d'un mot, le budget total des armées de l'Union européenne est supérieur quand même au budget russe.
Il est même 4 fois supérieur.
Allez, Karim Abrik et Philippe Guibert qui n'ont pas encore commenté cette actualité.
Je pense qu'en ce moment, c'est vraiment l'objectif des différents pays, c'est que le conflit ne s'étende pas. Et en ce moment, on veut que ce soit confiné à l'Ukraine, donc on fournit des armes, on fournit du matériel militaire et on se dit, on tolère en quelque sorte qu'il y ait un conflit, oui, aux portes de l'Europe, mais on se dit, c'est confiné là-bas, tant que c'est confiné, ça va. Sauf que on le voit quand même, et je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire on dit souvent la Russie ne veut pas perdre, l'Ukraine est décidée, l'Ukraine résiste, mais au bout de 2 ans, ce qui devait être la fameuse, dans le c'est un peu la propagande russe à l'époque, c'était de dire c'est une opération spéciale. Rappelez-vous, hein, c'était dans l'opération spéciale.
On ne parle pas de guerre en Russie. On parle d'opérations spéciales.
Qui devait durer. En fait, ça devait être assez court comme laps de temps. Et on se retrouve quand même 2 ans plus tard. Les lignes de front en ce moment ne bougent pas beaucoup. Et oui, il y a le questionnement sur les États-Unis. Mais je suis d'accord quand on dit, bon, que va-t-il se passer? Exemple, si c'était Donald Trump. Il a dit qu'il voulait régler ça en 24 heures. Évidemment, on connaît le ton de Donald Trump. On connaît comment il est. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au fond? Ça veut dire, est-ce que ça serait une orientation de dire, ben négocier? Il faudra négocier, on passe à la vitesse supérieure des négociations. Est-ce que ce serait des territoires ou des choses comme ça? Je pense qu'il pourrait avoir une certaine pression à aller de ce côté-là, éventuellement, si non, les États-Unis décident de se
désengager. C'est surtout l'Europe qui est dans le viseur actuellement. Emmanuel Macron a recentré l'Europe dans le viseur d'Emmanuel Macron, et c'est ça qui inquiète
les Français. Oui, mais c'est un lien, en fait. C'est un lien, tout ça. C'est-à-dire que les votes, en ce moment, aux États-Unis, on parle de 60 milliards. Combien on a voté en ce moment en France, en Europe? Et on parle juste d'une aide supplémentaire en ce moment là, qui est en jeu de 60 milliards. Donc, c'est une guerre d'usure. Ça fait plus de 2 ans maintenant. Donc, il faudra voir dans quelques mois combien de temps, de part et d'autre, on peut tenir. Eh bien, moi, je pense que c'est un peu ça qui va se poser après sur la capacité aussi à l'Europe à fournir et à continuer de fournir des milliards de dollars.
Philippe Guibert.
Première remarque. Tout le monde est en campagne électorale. Vladimir Poutine, c'est une campagne électorale très particulière.
C'est pas nécessaire.
Il a besoin de jouer, d'entretenir le mythe de l'homme fort pour garder sa légitimité auprès.
Mais l'avantage des dictateurs, c'est qu'ils peuvent s'inscrire facilement dans la durée, ce qui est moins vrai pour les démocrates.
Il a demandé 80% de
Joe Biden.
Et il les aura, vous inquiétez pas.
Joe Biden est en campagne électorale contre un certain Donald Trump.
Certes.
Et troisièmement, Emmanuel Macron, on a bien compris qu'en fait, le chef de campagne du camp macroniste, c'est évidemment lui avec Gabriel Attal. Donc tout le monde monte un petit peu dans les aigus ou dans les graves, peut-être plus dans les graves que dans les aigus, dans la dramatisation. Le vrai problème, c'est quoi? C'est est-ce que, dans une perspective, ou même avec Donald Trump, Donald Trump n'a pas dit « je vais abandonner l'Ukraine ». Je rejoins ce que disait Sébastien. Il a dit « vous, les Européens, vous êtes bien gentils, mais il faudrait que vous payiez plus, parce que là, c'est nous qui payons tout. » Donc, le vrai enjeu est de savoir si les pays européens de l'Union européenne sont en capacité de monter leur effort budgétaire pour financer l'aide à l'Ukraine. C'est ça l'enjeu. L'histoire d'envoyer des troupes en Ukraine, pour moi, ça reste de la communication, à mon avis ratée, de la part d'Emmanuel Macron, mais de la communication et de la gesticulation. Donc, le vrai enjeu, c'est de savoir si on est capable d'augmenter sérieusement notre aide militaire, nous, Européens, à l'Ukraine. Puis troisième dernière remarque, peut-être qu'un jour, il faudra dire la vérité quand même, parce que tout le monde a l'air de mentir. Personne ne gagnera cette guerre. Je veux dire, nous, on fera tout, nous, Occidentaux, on fera tout pour empêcher, comme on l'a dit tout à l'heure, Poutine de remporter cette guerre et de prendre le contrôle de l'Ukraine.
Mais tout, c'est quoi? C'est ça la question.
Mais
c'est d'envoyer des troupes françaises.
Non, ça c'est dans notre fantasme.
C'est quoi faire tout alors?
Faire tout, c'est d'augmenter l'aide militaire. Non, c'est pas d'envoyer des troupes. L'enjeu, c'est pas du tout d'envoyer des troupes. Éventuellement, Zelensky l'a dit.
Comment qu'il l'a dit, hein? C'est le président de la République.
Oui, Zelensky l'a expliqué.
Troupes occidentales.
Il a pas dit ça, le président.
Il n'est pas exclu.
Zelensky a expliqué.
Ah bon, vous allez me dire ce qu'il a dit.
Zelensky a expliqué dans un entretien au Monde qu'il s'agissait en fait d'avoir des formations sur place en Ukraine aux armements venant de pays européens. Donc là, ça a du sens d'envoyer des gens qui forment les militaires ukrainiens.
Alors, général, qu'est-ce qu'il a dit, Emmanuel Macron, que je n'aurais pas compris?
Alors, ce qui a été dit, c'est pour ça que j'ai précisé l'affaire des lignes rouges. Il a dit pas de lignes rouges, mais pas d'escalade non plus. Donc en fait, c'est des lignes rouges partout.
Donc ça, c'était la deuxième intervention. Moi, je parle de la première, où il a dit qu'il n'excluait pas l'envoi de troupes occidentales en fonction de la dynamique.
Et dans la première, il a rajouté que nous n'étions pas en guerre contre la Russie. Et donc, nous ne voulons pas rentrer en guerre contre la Russie. Donc après, ça a été précisé. On est bien d'accord.
Ce qu'il veut, Emmanuel Macron.
Pas de lignes rouges, mais pas d'escalade.
Voilà. Que veut Emmanuel Macron, en fait? Parce que d'un côté, pas d'escalade, de l'autre, l'envoi éventuel de troupes. Mais en fait, j'ai pas l'intelligence pour comprendre.
Une dimension politique. Je veux bien que vous m'aidiez.
Encore
une
fois,
parce que c'est un piège tendu au Rassemblement National.
Il a voulu jouer
aussi pour forcer, et pas seulement aux Insoumis aussi.
C'est très grave alors de faire de la politique intérieure sur des choses aussi dramatiques.
Les autres. Mais ça n'est pas que ça, je vous le disais tout à l'heure. Il essaie d'alerter aussi, et il n'était pas le seul à le faire en Europe.
parce que les pays baltes étaient plutôt d'accord avec ce que disait pour le coup Emmanuel Macron. Ça n'est pas parce que d'autres ont dit non, nous n'enverrons pas de troupes, que pour autant ils n'ont pas partagé la vision qu'il exprimait. Préparons-nous à cette perspective. Que faisons-nous? Parce qu'il vaut mieux effectivement avoir anticipé la question que de se poser la question en urgence au mois de juin parce que les troupes russes sont aux portes de Kiev. Que faisons-nous s'il y avait un effondrement ukrainien?
La pression qui s'accentue également. Oui, alors très vite, s'il vous plaît.
La divergence, elle est avec l'Allemagne, puisque l'Allemagne est en plein débat sur le fait de savoir.
Mais si vous avez vu le rapport, j'imagine, en général, vous avez vu le rapport aujourd'hui.
Laissez finir, Jean-Sébastien.
Donc la dimension européenne du discours d'Emmanuel Macron, c'est vis-à-vis beaucoup de l'Allemagne. Et la dimension française, c'est qu'il a voulu jouer au chef de guerre et créer un clivage dans la.
Et l'état de l'armée allemande est absolument catastrophique. Le rapport annuel sur l'état de la Bundeswehr vient d'être publié et c'est absolument désastreux. On se désole quand on regarde l'armée française, mais enfin, ça n'a rien de comparable avec l'état dans lequel se trouve l'armée allemande. Que ce soit en termes de moyens ou même de vivacité des troupes.
Je voudrais qu'on avance sur ce que rappelait Tatiana tout à l'heure, la pression qui s'accentue également sur les opposants à Vladimir Poutine. 48 heures avant le début de la présidentielle, Léonid Volkov, qui est l'ex-bras droit d'Alexei Navalny, qui est décédé, lui, il y a quelques semaines en prison, a été violemment, j'ai un peu de mal avec la diction ce soir, pardonnez-moi, a été violemment agressé au marteau hier soir devant son domicile à Vilnius, en Lituanie. Il se trouve que le dirigeant lituanien était en visite à Paris aujourd'hui. Il a commenté cette actualité depuis l'Elysée. Lisez avec moi ce qu'a dit le président de la Lituanie. Quant à Poutine, je ne peux vous dire qu'une chose, personne n'a peur de vous ici. Commentaire sur cette déclaration depuis Paris. Tatiana.
Plusieurs choses. D'abord, je rappelle quand même que la veuve d'Alexei Navalny n'arrête pas, fait campagne en fait contre Poutine et appelle justement à perturber ce scrutin.
Et c'est une femme particulièrement courageuse d'ailleurs.
Tout à fait, qui est d'un courage absolument fabuleux. Et donc, ce n'est pas par hasard qu'ils s'en prennent aussi au bras droit d'Alexei Navalny. Je rappelle aussi qu'il y a quelques semaines...
Est-ce que cette déclaration, depuis Paris, qu'elle soit faite depuis Paris, ça nous implique encore peut-être d'une certaine manière ou pas?
Non, encore une fois, moi, je pense que vraiment, la force... Enfin, il faut répondre à la force par la force.
Mais nous avons une épée de bois.
Mais non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas du tout d'accord. L'OTAN n'est pas une épée de bois, loin de là. Enfin, pardon, non. Pas du tout. Et d'ailleurs, regardez, si la Suède a voulu intégrer l'OTAN, c'est pas par hasard. C'est parce que justement, ils sentent cette menace et ils ont besoin aussi de cette protection. Donc non, je suis pas d'accord avec vous. En revanche, je pense que ce qui se passe là est quand même assez effrayant parce qu'on voit le musellement qui a eu lieu ces dernières semaines. Gary Kasparov, par exemple, qui est exilé à New York, a été déclaré terroriste, a été rentré en liste des terroristes par la Russie. Et on voit d'ailleurs la façon dont cette élection se déroule, puisque il me semble que la commission électorale n'a validé que 3 candidature, tout à fait fictive évidemment, on a vu aussi que c'était passé lors de l'enterrement de Navalny et ce qui se passe depuis lors en termes de répression de tous ceux qui sont allés justement à cet enterrement. Cela dit, je pense que la France a raison de taper du poing sur la table à chaque fois qu'elle le peut, ou ceux qui sont en France de le faire depuis la France, parce que je pense qu'Emmanuel Macron est assez courageux sincèrement quand on voit la non-unité européenne et quand on voit justement, vous l'évoquiez tout à l'heure Jean-Sébastien, la position des Allemands qui me semble tout à fait irresponsable. Au regard aujourd'hui de la situation géopolitique et de ce qui se passe avec la Russie, de ses velléités d'expansion, voilà, je pense que c'est assez courageux.
Il y a une forme de prétention aussi peut-être d'avoir pris cette position sans consulter ses partenaires européens et de surprendre tout le monde. C'est là qu'il y a un côté... C'est peut-être courageux, vous avez raison.
Sur le fond, oui, sur la forme, c'est une... Non,
mais c'est pas l'impression que ça a donné le 24 heures après, quand toute l'Europe réagissait.
La formulation était, encore une fois, extrêmement maladroite, et on connaît le goût d'Emmanuel Macron pour la transgression, où il aime bien s'écouter parler. Enfin, c'était quand même dans le cadre d'un sommet européen où cette question-là avait été évoquée. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même a dit que c'était une question qui avait été évoquée.
Il a voulu faire un coup.
Et je suis d'accord avec vous, c'est ce que je vous dis.
Un dernier mot,
régulièrement par son narcissisme, en quelque sorte, ce qui est intéressant dans sa pensée.
Pour revenir sur ces déclarations du jour et conclure avec le général Clermont, Vladimir Poutine, donc, qui a dit que la Russie serait prête à recourir aujourd'hui aux armes nucléaires si sa souveraineté était menacée. À quel moment peut-on considérer que la souveraineté de la Russie est menacée?
Une question qu'on peut poser, il n'y a que Vladimir Poutine qui a la réponse, c'est lui qui doit décider à quel moment c'est existentiel
parce
ou pas.
Parce que la force de frappe, on la voit à l'image, elle est sans conteste.
Oui, enfin, c'est depuis le début de cette guerre. Ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'avant-hier, ça ne date pas de la déclaration du président Macron. On sait qu'il y a cette espèce de chantage nucléaire, cette sanctuarisation agressive de la part de la Russie pour tenir l'OTAN à distance de ce conflit. Voilà. Et avec des possibilités d'évolution qu'on verra au fil du temps.
Comme vous l'avez dit.
Dernier point très très court.
Alors allez-y. On va être un tout petit peu en retard pour le JT, mais
demain il y a une réunion importante entre où le président Macron voit le chancelier Scholz et le président de la Pologne. Il est indispensable qu'on rétablisse l'unité entre les Européens, parce que le centre de gravité des Européens, c'est l'unité des Européens. Si on diverge sur la stratégie de soutien à l'Ukraine, ça serait une catastrophe pour l'Ukraine. Donc il faut recréer cette unité entre les Européens.
Allez, je vois que Philippe et Tatiana veulent dire un dernier mot. Les amis, s'il vous plaît, vraiment concis.
Non, sur la question de la souveraineté russe, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, ils considèrent les territoires ukrainiens conquis, Donbass et Crimée, etc., comme faisant partie de la Russie. Et donc, il considère que tout ça, ce sont ses intérêts vitaux et que ça touche à sa souveraineté.
Mais je vais prolonger, même pas conquis, parce qu'il a considéré dans son discours-là, en mettant en garde les Américains, en disant qu'en fait, ça serait une atteinte à sa souveraineté si jamais ils envoyaient des troupes en Ukraine. Donc voilà, c'est aussi une façon, si vous voulez, de montrer quand même que même l'Ukraine est considérée comme acquise aujourd'hui par la Russie quand ils mettent en garde les Américains en disant que ça serait une atteinte à sa souveraineté, justement.
Témoignage,
ligne rouge.
Témoignage édifiant d'un policier rennais après cette fusillade qui a choqué beaucoup de monde, plus d'une heure dans un quartier de Rennes en début de semaine. On en parle et puis si on a le temps, on reviendra sur Aya Nakamura qui est un sujet d'État. On en est là aujourd'hui, la chanteuse française donc qui est pressentie pour chanter à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et qui fait vivement réagir notamment la classe politique. Maureen Vidal, 23h31, pardon pour ces quelques secondes de retard.
Sciences Po Paris en crise. Le Premier ministre Gabriel Attal s'est rendu à la faculté parisienne et annonce saisir la justice via l'article 40 de procédure pénale. Sciences Po a déclaré se joindre en collaboration avec le ministère de l'Enseignement après que l'accès à un amphithéâtre a été interdit la veille à une étudiante de l'Union des étudiants juifs de France. Des faits niés par le comité Palestine de la faculté. Emmanuel Macron favorable à l'inscription du consentement dans le droit français. Objectif, faire évoluer la définition du viol. Une annonce faite lors d'une interview à l'association Choisir la cause des femmes fondée par Gisèle Halimi. Début février, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti avait mis en garde contre le risque de glissement vers une contractualisation des relations sexuelles, appelant à la prudence sur le sujet. Et en football, le PSG s'est imposé 3 buts à 1 face à l'OGN Nice lors des quarts de finale de la Coupe de France. Kylian Mbappé a ouvert le score à la 14e minute de jeu avant que Fabian Ruiz ne double la mise à la 33e pour les Parisiens. Malgré la réduction du score de Gaëtan Laborde à la 37e, les hommes de Luis Enrique ont validé leur qualification grâce à Lucas Beraldo à l'heure de jeu sur corner. En demi-finale, les Parisiens accueilleront le stade Rennais le 3 avril prochain.
Et on va aller au bout des images grâce à vous, Maureen Vidal. C'était un peu le foot en folie, le deuxième but, là. Et celui-là est un petit peu plus construit. Merci beaucoup. 3 buts à 1 donc pour le Paris Saint-Germain qui rejoint Rennes en 2000. J'ai un trou de mémoire. Qui est tenant du titre de la Coupe de France? Ah, c'est Toulouse. Merci, Martin Mazur. Et Toulouse, ils sont plus en course. Ils ont été battus, je crois, par Lyon, c'est ça? Ou je dis une bêtise? Ils sont plus en course, en tout cas. Bon, PSG Rennes en demi-finale. Rennes, tiens, parlons-en, mais pour une toute autre raison. J'avais pas pensé à la transition. Vous voyez. L'insécurité, une réalité que vivent tous les jours bon nombre de Français après une fusillade de plus d'une heure à Rennes en début de semaine. Les langues se délient. Je voudrais que vous entendiez ce policier qui parle, qui est en activité, donc qui parle sous anonymat, qui confirme que la ville de Rennes a basculé dans l'ultra-violence entre narcotrafiquants et la comparme même à la ville de Marseille.
Aujourd'hui, Rennes est devenue une ville dangereuse et je vois qu'aujourd'hui, les policiers demandent que cette ville soit reconnue comme Marseille et Lyon, alors qu'il y a 10-15 ans, c'était une ville tranquille, où on pouvait faire la fête, où les gens, les femmes, tout le monde pouvait sortir. Pendant plusieurs années, les politiques ont ouvert tout un réseau entre toutes les métropoles de France, c'est-à-dire ils ont désengorgé Marseille, Toulouse... C'est toutes ces villes-là qui ont été désengorgées, on les a mis dans des petites métropoles comme Rennes, Brest, Guingamp, Saint-Brieuc, Le Mans. Et aujourd'hui, sans le vouloir, nous avons tissé une toile d'araignée de drogue, de deal permanent. Le passage de trafic, de stupes, est vraiment ouvert. Et donc des familles qui venaient de Marseille ont monté un deal. À Rennes, je vous donne un exemple, à Rennes, et aujourd'hui, ils ont tissé leur toile. Les zones de non-droit, aujourd'hui, elles existent. On met des checkpoints dans des endroits pour éviter que la police puisse intervenir.
Et j'en profite juste, je fais une parenthèse, le général Clermont qui nous a quittés, que je remercie de nous avoir éclairé sur le sujet russo-ukrainien. On vient d'entendre Arthur Vatrigan de ce policier, fusillade de plus d'une heure, des armes lourdes en début de semaine, des policiers contraints de ne pas intervenir tout de suite pour s'équiper comme les délinquants. On n'avait jamais vu ça, tout est exponentiel et le témoignage de ce policier nous le confirme.
Oui, bien sûr, c'est le changement de marché. On n'est plus à l'époque de la French Connection, on a une visibilité. Là, aujourd'hui, le marché de la drogue est pluriel. Vous avez un chiffre d'affaires estimé entre 3 et 5 milliards d'euros. Donc c'est un business florissant, ça attire des jeunes recrues. Vous avez la multiplicité des drogues, c'est-à-dire vous avez les drogues de synthèse, les trafics de médicaments et les drogues principales, héroïne, cocaïne, avec qui ont complètement chuté en termes de prix. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus aucune ville qui est épargnée. Vous avez même des paysans de la Beauce qui sont coqués aujourd'hui. Et donc derrière, forcément, c'est du business. Le problème, c'est que vous avez...
Des paysans de la Beauce. Ouais, bien sûr. Excusez-moi, je réagis.
Ah non, mais c'est effrayant. C'est-à-dire qu'on se dit, il y a plus dans les moindres petites hameaux, il y a du trafic. Donc le budget explose, quoi. Le chiffre d'affaires explose. Et vous avez un changement aussi d'organisation. C'est que vous n'avez plus la figure du caïd, la figure tutélaire du caïd. Aujourd'hui, c'est des bandes qui, comme toute la jeunesse en France, veulent très très vite monter au sommet. Et donc, le moyen de monter au sommet, c'est de conquérir un territoire, le territoire, vous le chopez à coup de Kalachnikov. Et ils ont tellement accepté le bénéfice risque qu'ils prennent des dispositions testamentaires aujourd'hui. Jusqu'à même des gamins de 13 ans font des dispositions testamentaires en disant je sais que mon espérance de vie c'est 27 ans, sauf que malheureusement, on est dans un pays ultra consommateur, donc je sais que je vais croquer et palper des millions et des centaines de milliers d'euros, donc j'assume ce risque-là. Donc, de se retrouver avec des tirs de Kalachnikov pendant une heure à l'arme lourde dans Rennes, c'est pas étonnant. Sachant qu'en plus, ces villes-là, maintenant, se retrouvent ce qu'on avait à Paris il y a 20 ans, c'est-à-dire que vous avez des points de deal sur le terrain. À Paris, vous n'avez plus de points de deal, vous avez Uber Sheet. Vous avez des réseaux qui vous livrent chez vous, c'est plus le cas. Et maintenant, Rennes, Nantes, alors Marseille, ça reste encore parce qu'on est dans une géographie un peu atypique, mais toutes les moyennes villes sont touchées.
Et après, et même les petites villes.
Mais bien sûr.
Je me permets de.
Tout le monde est touché par la drogue.
Je me permets de vous couper et d'avancer sur ce que je dis avant qu'on fasse le tour, parce que on parle de Rennes depuis 2-3 jours. Donc les grandes agglomérations, on le savait, les villes moyennes, on a compris. Une petite ville des Alpes-Maritimes. Très honnêtement, je ne connaissais même pas le nom de cette ville. S'appelle Pégomas, habituellement extrêmement calme, a été le théâtre d'un guet-apens impressionnant ces dernières heures. 7 individus armés, cagoulés, ont poursuivi et tiré sur un homme dans une résidence. Les habitants craignent à présent pour leur sécurité. Regardez ce reportage par Stéphanie Rouquier et puis on en dit un mot.
Au nord de Cannes, les habitants de ce quartier de Pégomas sont encore sous le choc. Samedi dernier, aux alentours de 21h, 7 individus armés et cagoulés ont fait irruption dans cette résidence. Ils ont poursuivi l'un des locataires du parking souterrain jusqu'au rez-de-chaussée. Arrivés devant la porte d'entrée, ils ont ouvert le feu sur la victime.
Moi, j'ai entendu 2 coups de feu. On a regardé dans le couloir avec mon mari. Oui, ça fait peur.
Et c'était voulu, c'était un guet-apens. Ils sont venus le chercher ici. S'il avait été ailleurs, ils auraient pu le trouver ailleurs plus facilement.
Les 7 individus ont pris la fuite. L'homme, blessé aux jambes, a réussi à alerter un voisin. Il est actuellement hospitalisé. Ses jours ne sont pas en danger. Mais dans l'immeuble, désormais, de nombreux résidents se sentent en insécurité.
Vous descendez à 9h pour sortir vos chiens, vous prenez une balle perdue. On ne peut pas dire qu'on se sent en sécurité, quoi.
C'est le risque.
Paraît-il que c'est à propos de la drogue. Donc j'espère que le manager de l'immeuble va faire quelque chose pour nous sortir de là. Ce n'est pas des gens qu'on a envie de fréquenter dans notre immeuble.
Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat, règlement de compte sous fond de trafic de stupéfiants ou intimidation pour tout autre motif. Aucune piste n'est pour leur privilégiée.
Tout ce qu'on fait depuis 40 ans ne marche pas. Cette petite ville donc également touchée. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire différemment, Tatiana Arnard-Marzac?
Ce qui est effrayant quand même, c'est que par exemple à Rennes, Je me souvenais plus et je suis repartie regarder. La CRS-8 quand même avait été envoyée juste après mars.
C'est une nuit de passe.
Ça n'a rien changé. Ça montre bien, en effet, que tant qu'il n'y aura pas de solution pérenne et qu'on ne trouvera pas des solutions pérennes, on aura beau envoyer la CRS-8 autant qu'on veut, ça ne change rien au problème. Par ailleurs, vous le disiez, ils sont de plus en plus jeunes, il y a une violence tout à fait désinhibée. Yoda, le chef du gang marseillais, 33 ans. Moi, franchement, je trouve ça quand même extrêmement jeune quand on voit la puissance de ce clan à Marseille. Enfin, c'est quand même fou, il est quand même extrêmement jeune, il commençait à peine, enfin, il a un parcours quand même très atypique, c'est effrayant avec de la prison, etc. Certes, mais il a 33 ans. Donc c'est vrai que c'est effrayant. C'est vrai que quand on voit là à Rennes, ça a duré quand même une heure des tirs à l'arme automatique et que c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que vous avez ces habitants avec des enfants qui ne veulent même plus, qui tremblent en les déposant le matin à l'école ou à la crèche, qui sont prisonniers de ces quartiers, qui ont peur des balles perdues. Souvenez-vous, ces balles perdues même de personnes derrière leurs murs. Je ne sais plus dans quelle ville c'était.
Socaïna à Marseille, voilà. Un monsieur à Dijon également.
Qui était dans sa chambre. Enfin, c'est quand même assez effrayant. Et donc, c'est quoi les solutions?
À Rennes, là, c'est un miracle, hein, parce que ça a rafalé dans tous les sens. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de dommages collatéraux.
Il n'y a pas 15 000 solutions. Il y a un volet, évidemment, répression, et puis un volet, évidemment, une dissuasion absolue dans les peines, qu'elles soient effectives, fermes. Bon, ça, on ne va pas le dire 15 fois, on le dit toujours.
Oui, mais il faut changer les procédures.
Mais aussi en matière de prévention, c'est-à-dire que peut-être que déjà, puisque ça se passe maintenant dans les petites villes, peut-être qu'il n'y a pas un réseau de caméras de vidéosurveillance suffisant. C'est aussi quelque part un peu dissuasion. Non, mais je ne dis pas que ça, c'est une solution miracle. Je dis que c'est une conjonction de choses, c'est-à-dire la vidéosurveillance. Plus équiper les polices municipales, plus de présence de forces de l'ordre, plus de co-gestion, si j'ose dire.
Ça, c'est du court terme.
J'entendais par exemple un habitant qui me racontait ça il y a quelques jours, qui vit dans une cité en banlieue parisienne et qui me disait « Moi, j'ai eu un trafic de drogue terrifiant au pied de mon immeuble. » Et en fait, on s'est tous mis ensemble, tous les habitants. On a créé une sorte de collectif, on a fait une pression dantesque.
Oui.
Et on a eu les élus qui sont venus à notre rescousse, tous les habitants du quartier. Vous vous souvenez les maires de garde à Marseille, justement?
Mais vous avez raison, sauf que ces trafiquants-là, ils ont quitté ce quartier-là, j'imagine, mais ils sont dans un autre.
Mais on a tendance, si vous voulez, on est face à une telle gangrène, en fait. Comme c'est une pieuvre, en fait. Donc, il faut bien trouver à un moment donné aussi des solutions d'abord de court terme, avant de trouver une solution pérenne. La solution pérenne, c'est quoi? C'est une vraie politique de lutte interministérielle.
Et internationale, même.
Contre la drogue. Et donc ça, malheureusement, c'est pas demain. C'est-à-dire s'attaquer...
Sortir de l'état de droit, peut-être
dans les
aussi
ports, déjà, rien que dans les ports.
D'une certaine façon.
L'état de droit. C'est renforcer justement l'état de droit, refaire des zones de droit, de zones
changer
de droit.
Les procédures.
Et donc, oui, évidemment, bien sûr, aussi.
Non, j'émets plusieurs hypothèses.
Bien sûr, et sortir de cette histoire d'impunité et considérer que même pour les jeunes qui sont jugés comme de la chair à canon, comme des guetteurs, etc., il faut aussi qu'il y ait une réponse pénale.
Et puis c'est un système mafieux qui draine énormément d'argent et qui est tel que notre démocratie entière est en danger. Très peu de temps, alors des réponses courtes.
Si vous Philippe, dites, c'est un système mafieux, Jean-Sébastien. Je pense que vous avez raison. Enfin, c'est une multitude de petites mafias avec quelques grosses mafias. Et ben, à ce moment-là, il faut aller voir ce qu'ont fait les Italiens en Sicile. C'est un des rares endroits où ça a marché, où on a mis en place un parquet anti-mafia. D'ailleurs, ils ont fini par être assassinés sur la route entre Palerme et l'aéroport, avec des législations, non pas sortir de l'état de droit, effectivement, mais avoir des législations spécifiques, avoir des modes de punitions et de sanctions qui sans doute diffèrent de la délinquance de droit commun. Bref, il faut avoir une politique et pénale sanitaire qui certainement diffère de ce qu'on fait aujourd'hui. J'ajoute quand même que depuis le temps qu'on en parle, l'État ne fait toujours pas les campagnes qu'il a menées contre le tabac et contre l'alcool. Tout l'effort de prise de conscience de la société française sur le tabac et l'alcool, l'État ne le fait pas sur les drogues. Pourquoi ? Au nom du fait que c'est illicite. Et donc, comme c'est illicite, oh mon Dieu, on ne peut pas en parler. Donc, on est le pays le plus consommateur.
On va changer de logiciel, comme dirait l'autre.
D'Europe, en matière de cannabis, au moins, et on est pas mal sur les autres drogues.
On a un million surtout, de consommateurs quotidiens.
Surtout, n'en parlons pas. Surtout, n'en parlons pas.
Ouais.
Allez, on conclut, Karima.
Non, mais je dirais, c'est ça, le problème de la drogue maintenant, du trafic de la drogue en France, c'est titanesque et ça se complexifie chaque jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même avec la technologie, que ce soit pour la livraison, mais aussi pour l'information, avec les drones, tout ce que vous voulez, c'est beaucoup plus facile pour les trafiquants. Les stratégies des trafiquants de drogue aussi pour étendre le marché, je veux dire, non seulement ils sont sans foi ni loi, mais il y a toutes sortes de stratégies pour inonder le marché, faire baisser le prix, vraiment prendre le contrôle des territoires. Donc, il y a cet aspect de lutte contre les trafiquants de drogue qui est aussi qui aurait besoin aussi de la collaboration, si vous voulez, internationale pour toute la question des saisies de quantités importantes de drogue. Ensuite, sur la prise en charge de la délinquance aussi, hein, comment on réagit? Parce que de plus en plus, on prend les trafiquants, les réseaux embauchent en quelque sorte des jeunes de plus en plus jeunes. Donc, il y a une vraie stratégie aussi pour la prise en charge pour la délinquance. Et ensuite, ben oui, on l'a dit, la question des peines, on le sait, on peut aller encore plus loin hein, sur les places de prison aujourd'hui, sur la réflexion sur la consommation de la drogue, pourquoi aujourd'hui les gens consomment autant. Donc tout ça est peut-être aussi la réflexion, ça prend beaucoup d'argent pour ces luttes-là. Oui, c'est ça. Non, donc peut-être qu'un jour, ça se posera aussi la question de la légalisation. Peut-être qu'à un moment donné, le gouvernement va abandonner en se disant, bon, ben finalement, il faut trouver de l'argent.
Et je me permets de vous faire des signes et de vous presser, oui, Karima, voilà. Pas pour vous embêter, mais parce qu'on apprend à l'instant qu'en Seine-Saint-Denis, et on va rendre l'antenne dans quelques secondes, donc je voulais vraiment prendre le temps seulement au moins de vous lire cette dépêche. Un jeune homme est décédé ce soir après une collision avec une voiture de police à Aubervilliers. Un jeune homme qui circulait sur un deux roues est décédé ce soir dans cette ville de Seine-Saint-Denis, donc après une collision avec une voiture de police. Les premiers éléments évoquent un refus d'obtempérer. On va être bien sûr extrêmement prudent, puisqu'à part les quelques lignes et quelques informations que je viens de vous donner, je n'en dispose pas de plus, donc on va être extrêmement prudent. On sait simplement, Arthur, peut-être pour un commentaire très bref, que ces fameux refus d'obtempérer sont une vraie source de drame ces dernières années, et que ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve dans une situation comme celle-ci. Maintenant, bien sûr, il ne s'agit pas de mettre en cause ni l'un ni l'autre des protagonistes, mais simplement de constater que nous sommes encore dans un cas comme celui-là ce soir.
De toute façon, quelles que soient les causes, ça n'empêchera pas les banlieues de prendre feu, ça n'empêchera pas les politiques de faire de la récup, que ce soit dans l'incense contre les victimes ou pour taper sur la police. On sait comment ça va se passer, le scénario est déjà écrit.
Espérons qu'il y aura une enquête qui permettra d'établir rapidement la réalité.
On peut imaginer une course poursuite avec un jeune qui ne s'arrête pas et une situation qui n'est pas maîtrisée.
Oui, mais la seule chose qu'on puisse dire là, c'est attendons.
Bien sûr.
Les résultats. Je comprends parfaitement parce que l'information est importante, puisque tout le monde a en tête les émeutes qui avaient débuté avec la mort du jeune Naël. Donc évidemment que ça soulève une inquiétude, mais précisément, raison de plus pour attendre que d'avoir des éléments plus précis pour comprendre la nature de ce qui s'est passé ce soir à Aubervilliers.
On va bien sûr prendre le temps de récupérer toutes les informations pour pouvoir les commenter avec les éléments dont on disposera. Il est un petit peu tôt pour apporter des commentaires. Je voulais simplement vous rappeler, donc, puisque ça vient de tomber, vous le donnez, un refus d'obtempérer dans le nord de Paris, un jeune homme d'ailleurs dont on ignore l'âge à l'heure où l'on se parle, décédé suite à un refus d'obtempérer dans une course avec les forces de l'ordre. On développera évidemment ces informations dans un premier temps dans l'édition de la nuit, certainement avec plus d'éléments ce matin, demain matin avec Romain Desarbes dans la matinale. Très vite, les unes de vos journaux demain matin, avant de vous saluer, le Figaro, 20 ans après la loi de 2004, la laïcité toujours menacée. Ça aussi, c'est un gros sujet avec des mots forts du Premier ministre ces dernières heures qu'on pourra peut-être commenter aussi demain. Le wokisme, antisémitisme, crise de gouvernance, Sciences Po Paris en pleine dérive, on en a beaucoup parlé, les dérives d'une grande école. Tiens donc, le Parisien aujourd'hui en France également qui fait sa une avec cette info. Les échos menacent sur les raffineries françaises, on lira ça donc dans les pages du quotidien économique. La presse régionale bougeait pour sa santé, c'est l'alerte de Michel Simès, tiens, qui fait du rameur en une de Ouest France, et ben pourquoi pas. La Marseillaise, le business de l'insécurité, enquête sur voisins vigilants. Et c'est fini, me dit-on, en régie. Donc voilà pour cette revue de presse. Merci à tous les cinq. Je pense au général Clermont, donc, qui est parti en cours d'émission, mais qui a été très important dans ses analyses autour du conflit entre les Russes et les Ukrainiens. Martin Mazur, Coralie Deleplace, Maxime Fer ont préparé cette émission. Demain, c'est jeudi. Demain, c'est Soir Info. Bonne nuit et à demain.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.